Les podcasts de l'Institut de France.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je vais vous parler d'une planète qui n'existe pas. Il arrive parfois que les erreurs naissent non pas de l'ignorance, mais au contraire de la réussite. Il arrive même qu'elles en soient la conséquence directe, presque inévitable. L'histoire que je vais vous raconter, celle de Vulcain, en est un exemple particulièrement éclairant. Au milieu du 19e siècle, Urbain Le Verrier est un astronome au pouvoir. Et surtout, un astronome qui a raison, et qui a raison de manière éclatante. En 1846, en étudiant les irrégularités de l'orbite de la planète Uranus, il formule une hypothèse audacieuse. Ces écarts, ces petites irrégularités, ne sont pas des erreurs de mesure, mais les effets gravitationnels d'un astre invisible, une planète inconnue encore, jamais observée, qui perturberait Uranus dans sa course. Le Verrier se met au travail, il effectue ses calculs et il obtient la position de cette planète inconnue. Quelques jours plus tard, les astronomes pointent leurs instruments vers la région indiquée et la planète est bien là. Il s'agit de Neptune. C'est un triomphe, peut-être l'un des plus beaux de toute l'histoire des sciences. Une planète découverte non pas en la voyant, mais en la calculant. Une victoire de l'esprit sur le visible. Une confirmation éclatante de la mécanique de Newton, dont les lois semblent désormais régner sans partage, du plus proche au plus lointain. Plus tard, François Arago écrira que Le Verrier a découvert Neptune du bout de sa plume. Mais ce succès n'est pas seulement une victoire, c'est aussi une promesse. Il change la manière de penser. Une anomalie n'est plus un embarras, elle devient un indice, un message du ciel. Là où il y a un écart, il y a probablement une cause cachée qu'il faut découvrir. Et surtout, une règle implicite s'installe. Si on a réussi une fois, on doit pouvoir réussir une autre fois. La découverte de Neptune ne résout pas seulement un problème, elle crée une attente. Elle rend presque naturelle l'idée que toute irrégularité cache quelque chose d'invisible. Le Verrier devient, pour ainsi dire, l'interprète des anomalies célestes. Là où d'autres voient des irrégularités, lui, il voit des causes. Là où les trajectoires dévient, il cherche une présence. Mais Le Verrier n'est pas seulement un savant, c'est aussi une figure publique, une autorité scientifique reconnue. Nommé directeur de l'Observatoire de Paris, il exerce un pouvoir considérable sur l'astronomie française. Son nom dépasse largement les cercles savants. Mais cette position s'accompagne de tensions. Le Verrier est un homme de caractère exigeant, autoritaire. Ses relations avec ses collègues sont difficiles. Admiré pour son succès, il est aussi critiqué pour ses méthodes, contesté dans son autorité, parfois isolé dans ses certitudes. Aujourd'hui, on dirait que ses pratiques de management n'étaient pas les meilleures. Et cela n'est pas anodin, car une hypothèse ne vit pas seulement dans les équations, elle vit aussi dans une communauté et plus celui qui la porte est puissant, plus il devient difficile de la contester ou même d'imaginer qu'elle puisse être fausse. C'est dans cet esprit qu'apparaît une nouvelle anomalie. Elle concerne Mercure, cette fois, la planète la plus proche du Soleil. Sa trajectoire n'est pas exactement celle qu'on attend. Son point le plus proche du Soleil, son périhélie, avance lentement au fil du temps. Ce phénomène est connu, mesuré et en grande partie expliqué par les perturbations des autres planètes. Mais il reste un résidu. Une avance inexpliquée, de quelques secondes d'arc par siècle, presque rien. Et pourtant, dans un univers gouverné par des lois précises, même une quantité infime exige une explication. Le Verrier la cherche et il pense la trouver. Si Mercure se comporte ainsi, c'est qu'elle est aussi perturbée par une masse invisible, une nouvelle planète encore plus proche du Soleil, trop proche pour être finalement observée, toujours noyée dans sa lumière. Une planète intérieure, brûlée par le Soleil, fugitive, presque insaisissable. On lui donne un nom, Vulcain. L'hypothèse semble naturelle, elle prolonge directement le succès de Neptune. Une anomalie, une planète. Et pourquoi ça ne fonctionnerait pas à nouveau? Et c'est là peut-être que réside le piège. Une hypothèse n'est jamais aussi convaincante que lorsqu'elle prolonge un succès. Elle n'apparaît pas comme une spéculation, mais comme une continuité. Elle ne semble pas introduire quelque chose de nouveau, mais simplement étendre ce que l'on croit déjà comprendre. Vulcain n'est pas une idée audacieuse, c'est une idée raisonnable. Et c'est précisément pour cela qu'elle est difficile à abandonner. Peu après, un observateur amateur affirme avoir vu un petit disque sombre traverser le Soleil. Le Verrier examine ce témoignage avec sérieux, il compare, il ajuste. D'autres observations sont rapportées, rien de parfaitement cohérent, mais rien non plus de totalement absurde. Vulcain prend peu à peu forme, non pas comme un objet clairement visible, mais comme une nécessité théorique appuyée par des indices. L'observateur amateur est même décoré de la Légion d'honneur pour sa découverte. Et alors quelque chose de subtil se produit. Une fois qu'une hypothèse est installée, elle transforme le regard. Les observations ne sont plus neutres, elles sont interprétées à la lumière de ce que l'on croit savoir. Un point sombre devient un indice, une variation devient une confirmation. Car voir en science n'est jamais un acte entièrement passif. On ne voit pas seulement avec ses yeux, mais avec ses attentes. Une théorie ne se contente pas d'expliquer ce que l'on observe, elle organise ce que l'on croit observer. Dès lors, l'absence devient ambiguë. Ne pas voir Vulcain ne signifie pas nécessairement qu'elle n'existe pas. Peut-être est-elle simplement difficile à voir. Peut-être échappe-t-elle aux instruments. Peut-être n'apparaît-elle que dans certaines conditions. L'hypothèse, au lieu de disparaître, se protège elle-même. Le Verrier ne doute pas, il ne peut pas vraiment douter. Sa méthode a fonctionné, sa théorie est solide, les lois de Newton ont prouvé leur puissance. Ainsi commence une quête qui durera près de 20 ans. 20 ans d'attente, de calcul, d'observations incertaines, 20 ans à chercher une planète qui ne se laisse pas saisir, 20 ans à poursuivre une ombre. Le temps passe, le Verrier meurt en 1877. Vulcain n'a pas été trouvé, mais elle n'est pas non plus réfutée. Elle reste là, dans les calculs, dans les hypothèses, dans les marges de la théorie. Et puis, au début du XXe, tout change. Non pas grâce à une nouvelle observation, mais grâce à un changement de perspective. En 1915, Albert Einstein propose une nouvelle théorie de la gravitation et la relativité générale. Dans ce nouveau cadre, la trajectoire de Mercure n'est plus une anomalie. Elle est exactement ce qu'elle doit être. Le résidu inexpliqué disparaît. Non pas parce qu'on a trouvé Vulcain, mais parce qu'on n'en a plus besoin. La planète n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Faut-il conclure que Le Verrier s'est trompé ? Oui. Mais ce serait une conclusion trop simple. Car son erreur n'est pas celle d'un esprit imprudent, c'est celle d'un esprit fidèle. Fidèle à une théorie qui avait fait ses preuves, fidèle à une méthode qui avait réussi, et fidèle aussi à une vision du monde où chaque phénomène a une cause précise, localisable, calculable. Le Verrier n'a pas inventé Vulcain par fantaisie, il l'a déduite avec rigueur, à partir des meilleures connaissances de son temps. Et c'est précisément ce qui rend son erreur si précieuse. Elle montre que la science ne progresse pas seulement en corrigeant les erreurs grossières, mais en rencontrant les limites de ses propres succès. Il est frappant que cette histoire soit si rarement rencontrée. On célèbre Neptune comme un triomphe de la raison, mais on ne parle pas de Vulcain, ou alors comme d'une curiosité presque embarrassante. Et pourtant, les deux histoires sont indissociables. Elles relèvent du même geste, de la même méthode, de la même fidélité aux lois. Ne raconter que les réussites, c'est donner une image trompeuse de la science. C'est laisser croire qu'elle avance sans hésitation, sans erreur, sans impasse. C'est effacer ce qui en fait pourtant la force, sa capacité à rencontrer ses propres limites. Oui, Vulcain devrait être enseigné au même titre que Neptune. Quel bel exemple pour un enseignant. Non pas comme une erreur à corriger, mais comme une étape à comprendre. Car la science progresse non seulement en découvrant ce qui est juste, mais aussi en comprenant pourquoi ce qui semblait juste ne l'est pas. Il y a dans cette histoire une forme de symétrie. Le Verrier découvre Neptune en suivant une anomalie. Il cherche Vulcain en suivant une autre. Dans un cas, il révèle un objet caché. Dans l'autre, il révèle une limite invisible. Et c'est peut-être là la véritable découverte, car Vulcain n'existe pas, mais sans Vulcain, nous n'aurions peut-être pas compris que l'espace lui-même pouvait se courber. Et cette idée-là, elle est bien réelle. Vous avez écouté On the Nature of Daylight, Entropy, par Max Richter.
Petite histoire de science.
Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.